Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
Bel été sur la première radio de France. RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Nous allons garnir votre bibliothèque ce matin. Trois bons polars pour l'été. C'est une sélection de Bernard Lehu qu'on vous offrira d'ailleurs au 3210. Et trois bandes dessinées sur les conseils d'Arnaud Mulpa.
Royal.
À la télé ce soir, fin de saison pour les séries Major Crimes sur France 2 et Picnic at Hanging Cox sur Canal+. Et puis des classiques du cinéma français à voir ou revoir en famille, c'est ce que nous dira Isabelle Morini-Bosque. Et puis nous irons à Rennes, en Bretagne, avec Sophie Orange pour découvrir Debout, une exposition d'œuvres contemporaines de la collection François Pinet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Vous avez donc sélectionné trois bons polars de l'année à lire cet été et on va donc vous les faire gagner, tous les trois, tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut être très attentif à ce que vous allez dire. Votre premier choix...
Comme d'habitude,
bah oui,
j'espère.
Bien sûr. Mais encore plus que d'habitude. Votre premier choix est aussi une façon de rendre hommage au plus populaire de nos auteurs de polars historiques, Jean-François Parot, créateur des enquêtes de Nicolas Le Floch, décédé le 23 mai dernier.
La dernière enquête de son célèbre commissaire du XVIIIe siècle, paru à l'automne, Le Prince de Cochinchine, est inspiré, comme toujours, d'un événement authentique. Alors ici, la négociation en 1787 d'un traité d'alliance entre la Cochinchine, l'actuel Vietnam, et Louis XVI. Mais les ennemis de ce traité lancent un vaste complot que Nicolas Le Floch tente de contrecarrer au fil de multiples épreuves, y compris son incarcération, figurez-vous, à la Bastille.
Et pour le prince de Cochinchine, Jean-François Parot, vous avez accordé sa dernière interview dans laquelle il parlait de la Bastille.
Oui, mais ça donne l'occasion de présenter un personnage qui est un personnage historique, qui est M. de Launay, gouverneur de la Bastille. On s'aperçoit d'une chose, c'est que M. de Launay n'était pas fait pour être gouverneur de la Bastille. Et que peut-être, l'histoire souvent est le fait de personnages incertains et qui pourtant ont des conséquences considérables sur l'histoire générale. Il est possible que si la Bastille avait été gouvernée par un personnage à poigne et moins pusillanime que ne l'était M. de Launay, la Bastille n'aurait peut-être pas été prise en 1789. Et la Bastille qui est non prise en 1789, peut-être que les événements auraient été différents.
Eh oui, Jean-François Parot mêlait comme personne la grande histoire à la fiction. Et puis, il nous régalait de l'élégance de son style, toujours à la manière, à la façon du XVIIIe siècle. Et alors qu'il maniait avec une facilité déconcertante, il m'en avait parlé aussi donc à l'automne dernier.
Oui, la première chose que je fais le matin, c'est de sortir mes feuilles de papier blanc, de sortir mon stylo, d'en nettoyer l'extrémité, de le charger avec de l'encre Waterman bleu-noir, et puis à peine la plume est-elle posée sur le papier que j'écris. D'ailleurs, je vous ai montré tout à l'heure quelques feuilles du dernier manuscrit. Il n'y a pas une seule rature. Tant que les récits de ces aventures m'amusent moi-même, il n'y a pas de raison que j'abandonne. Le plaisir est toujours là, et ça continuera si Dieu me prête vie.
C'est un artisanat, hein, l'écriture. Très émouvant, ces derniers mots de Jean-François Parot.
Oui, d'autant qu'il se savait déjà condamné à l'époque. Alors aujourd'hui, eh bien, il nous reste, et heureusement, le bonheur de lire ou relire Le Prince de Cochinchine, la 14e enquête de Nicolas Le Floch, publiée chez Lattès. Et puis, vous pouvez aussi lire et relire les 13 précédentes, hein, bien sûr, toutes disponibles en poche chez 10-18.
Deuxième polar à lire cet été, dans un tout autre genre.
Certes.
La Terre des Morts de Jean-Christophe Granger.
Eh oui, Granger, le maître incontesté de thriller français. Ouvrir un Granger, c'est plonger en enfer. Ici, celui du sexe extrême. Et alors, n'allez pas croire que Granger délire.
Tout est vrai. Et je me suis surtout documenté sur l'art du bondage, cette histoire de corde.
Qui nous vient du Japon.
Qu'on appelle au Japon le shibari. Et en réalité, toute cette part de l'enquête, je l'ai menée au Japon.
Donc, ma femme est japonaise,
mon petit garçon est japonais, donc j'ai eu des facilités pour descendre dans le Tokyo vraiment underground et approcher tous ces maîtres en art du ligotage, qui va évidemment de pair avec des gens qui aiment ça. Donc j'ai pris ces informations et je les ai ramenées à Paris, où de toute façon, il y a beaucoup d'activités comme ça à Paris. Il y en a presque plus qu'à Tokyo. L'art de la corde, comme on dit, c'est quelque chose qui est tendance en ce moment. C'est toujours ma même méthode. J'imagine une histoire très sombre et très violente, mais au sein d'un décor réel. C'est toujours mon idée, vous savez, du flic qui est une sorte de chevalier qui va aller tuer le dragon dans la forêt. Et ma forêt est réelle, c'est-à-dire que cet univers et toutes les pratiques que je décris, elles existent.
Et dans sa forêt réelle, comme il dit, Granger imagine le meurtre de stripteaseuses, adeptes de ces jeux sexuels extrêmes et victimes d'un prédateur redoutable que son flic Stéphane Corso, alors formidable personnage, lui-même torturé et tenté par le mal, va traquer sans relâche. La lecture est captivante jusqu'à la terreur, à la suffocation. Granger ose tout avec son lecteur.
Vous savez, c'est vraiment l'image de la jungle, c'est-à-dire mon lecteur doit venir avec moi et des fois il se prend des branches dans le visage, il est fouetté par les feuilles et il doit me suivre, ça vaut le coup.
Et vous dites ça avec un grand sourire.
Non, mais parce que moi-même, quand j'écris, je me doute bien que quand même, j'imagine ma lectrice, elle va sauter sous sa couette là, en lisant des choses comme ça. Mais je pense qu'elle va être prise, parce que moi, en tant que lecteur, je suis toujours pris de la même façon, quand le livre est réussi, par toujours cette question. Ok, c'est dur, le chemin est éprouvant, mais je veux savoir qui a tué.
Lectrice ou lecteur, je vous confirme qu'on saute sous la couette. Mais alors, qu'est-ce qu'on aime ça ? La Terre des Morts, c'est un Jean-Christophe Granger de haute volée et c'est à lire chez Albin Michel.
Terminons avec un roman espagnol. Tout ça, je te le donnerai, c'est le titre de ce livre de Dolores Redondo.
Oui, Manuel, écrivain à succès homosexuel, découvre après la mort de son compagnon dans un accident de la route sa belle famille, des aristos hautains et rétrogrades. Il doute de la version accidentelle de la disparition de son ami et il va mener l'enquête. Dolores Redondo signe un remarquable suspense sur les secrets familiaux.
Bien sûr, c'est pratiquement la formule classique d'Agatha Christie. Partir d'un secret, d'un héritage mystérieux ou d'un testament perdu, l'un des grands classiques de la romancière britannique. Mais je voulais plutôt m'intéresser aux secrets qu'il peut y avoir au sein d'un couple, avec une question que j'ai toujours en tête. À quel point connaissons-nous vraiment la personne qui dort à nos côtés ?
Et c'est jusqu'à quel point llegamos a conocer a la persona que duerme a nuestro lado.
Ah oui, je vois Isabelle Morini-Bosque qui acquiesce. La vérité triomphera, bien sûr, à la fin de tout cela, je te le donnerai. L'excellent roman de Dolores Redondo. Et alors, qui a pour atout supplémentaire de se dérouler dans des paysages absolument spectaculaires et méconnus, du vignoble à flanc de montagne de la Ribera Sacra, c'est en Galice.
Eh bien, on va voyager avec vous. On vous offre tout cela, je te le donnerai, édité au Fleuve, ainsi que La Terre des Morts de Jean-Christophe Granger, publié chez Albin Michel, et Le Prince de Cochinchine de Jean-François Parot chez Lattès, si vous répondez à la question de Bernard Lehu.
Alors, elle concerne justement Jean-François Parot. Quel est le nom du commissaire du XVIIIe siècle qu'avait créé Jean-François Parot ?
C'est assez facile, je dois dire. Si vous avez écouté attentivement,
bonne adaptation télé.
Tout ça au 3210, évidemment. Vous appelez le 3210 maintenant pour répondre à la question que vient de vous poser Bernard. Nous, on va marquer une courte pause et puis tiens, des livres encore, mais cette fois-ci des BD. Dans un instant, ce sera avec Arnaud Mulpa. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Jérôme Chapuis jusqu'à 9h30.
Bonjour Arnaud Mulpa.
Bonjour Jérôme. Bonjour.
Alors, parlons bande dessinée avec vous. Vous nous avez préparé ce matin une petite sélection d'albums à emporter à la plage ou ailleurs.
Oui, et si vous êtes à la recherche d'une destination exotique, je vous propose ce voyage en République de Crabe. C'est Tarmaz, jeune auteur, révélation blog au Festival d'Angoulême en 2014, qui signe cet album. Crabe, pour ceux qui ont quelques lacunes en géographie, c'est une petite île qui vit entièrement en autarcie, à 4 heures d'avion, puis 5 heures de bateau de la côte.
Le genre de destination qui se mérite.
Ouais, d'autant que le gouvernement n'accorde que 10 visas par an. L'héroïne de l'histoire, Maya, travaille dans une société de livraison. Elle a une semaine pour livrer là-bas un colis en main propre, mais entre la chaleur étouffante, les moustiques, l'administration tatillonne, on se croirait chez Uburoy, et la nourriture quasi exclusivement à base d'oignons, eh bien Maya n'imaginait pas embarquer dans une telle galère. Tarmaz a eu la bonne idée d'intercaler dans ce récit des planches descriptives sur la faune, la flore, l'architecture, l'histoire de ce pays imaginaire. Elle a créé tout un univers et même un vocabulaire. C'est un album très inventif, dans le dessin aussi, faussement naïf, tout en jaune et nuances de gris. Le titre donc, Voyage en République de Crabe, et c'est paru chez Delcourt.
Oui, je tombe sur la page sur l'oignon d'eau, effectivement. Ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, il est petit ce livre, et donc on peut vraiment l'emmener à la plage, ce qui n'est pas le cas des deux autres. On revient en France, un autre de vos choix, Arnaud, en Alsace plus précisément, avec un album qui nous emmène dans les coulisses d'un club de foot.
Oui, le FC Marmoutier, à quelques kilomètres de Saverne, dans le Bas-Rhin, un petit club amateur comme il en existe des centaines en France, qui évolue bon an mal an entre la première et troisième division de district. Et les petites victoires, les défaites cinglantes, Lotte, Timothée Osterman connaît très bien. Il a commencé à jouer au FC Marmoutier à l'âge de 5 ans. Il en a 26 aujourd'hui, il y joue toujours. Il compte dans cet album intitulé donc Football District, les splendeurs et misères de son club de cœur. Alors ça va de la recherche de sponsors aux séances de préparation physique, en passant par toute une galerie de portraits assez savoureux, vous en reconnaîtrez forcément le père entraîneur qui est de l'équipe de jeunes qui a, comment dire, une légère tendance à favoriser son fils, les bénévoles au grand cœur qui font tourner la boutique autant que la buvette.
Ouais. Et là, c'est comme l'équipe de France, il y a Dédé aussi.
Il y a Dédé, ouais. Mais oui, mais là, c'est un joueur qui n'a aucune pudeur et qui passe son temps à faire des blagues à poil dans le vestiaire. L'auteur, Timothée Osterman, lui, c'est plutôt le profil du petit gars discret, le regard hyper aiguisé, qui n'en loupe pas une miette, surtout pas les causeries avant match de l'entraîneur.
Alors soit c'est hyper compliqué ou soit c'est des lieux communs hyper simples en fait. J'avais un coach qui trouvait des espèces de maximes sur la vie pour aller loin, il faut aller ensemble, des espèces de trucs d'entreprise, de coaching où si on fait un peu un pas de côté, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là ? On est en train de nous dire qu'on est des spartiates pour nous motiver, qu'on est des guerriers alors qu'on fait du foot quoi. Et d'essayer de faire ce pas de côté et de dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce vestiaire quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut faire et c'est comme ça que la situation devient vraiment marrante.
Ouais, c'est vrai que c'est souvent très drôle, parfois un peu moqueur, mais c'est jamais bien méchant. C'est même à l'arrivée un bel hommage à tous ces gens qui se démènent pour faire vivre le sport amateur en France. Ça s'appelle donc Football District, l'éditeur Fluide Glacial.
Oui, évidemment. J'étais en train de chercher les images de vestiaire pour Isabelle Morini-Bosse que je n'ai pas trouvé. Je lui confierai tout à l'heure.
Dédé,
alors terminons avec deux nouvelles aventures de Donald, signées Lewis Trondheim et Keramidas.
C'est la deuxième fois que ces deux auteurs s'approprient les personnages de Disney. C'est une réussite, l'intrigue tient en quelques mots. Pour venir en aide à son oncle Picsou, éternel insatisfait qui n'en a jamais assez, Donald part à la recherche du bonheur. C'est la fameuse question existentielle.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ?
Mais évidemment, avant de parvenir à cette réponse,
il est là le bonheur, il est là.
Eh bien, Donald va d'abord interroger son cousin Gontran, grand-mère Donald, l'inventeur Géotrouve-tout et quelques autres. Il va parcourir le monde des geôles d'une dictature au sommet de l'Himalaya, pour se rendre compte que c'est pas évidemment si simple de trouver le bonheur. D'ailleurs, est-ce qu'on parle d'un bonheur durable ou d'un bonheur fugace ? La notion varie aussi beaucoup selon les personnes. Il y a ceux qui sont heureux en accumulant les richesses, d'autres qui cherchent avant tout à faire plaisir aux autres. C'est un album vraiment à plusieurs niveaux de lecture. Les enfants pourront le prendre comme un formidable récit d'aventure et puis les adultes comme une petite leçon de philosophie. C'est rythmé, le découpage de Lewis Trondheim est comme très souvent très efficace, bourré de gags avec des rebondissements à chaque page. Je vous rappelle donc le titre, Donald Zappiest Adventures à la recherche du bonheur, et ça c'est paru chez Glénat.
Merci Arnaud, c'est vrai qu'il est très beau, puis alors c'est vintage parce que les couleurs sont magnifiques, un petit peu comme ces BD des années 50, alors que c'est tout neuf, hein, on est bien d'accord.
C'est entièrement, voilà. Ouais.
Merci beaucoup, trois belles idées. Voici le jingle des audiences. C'est donc à vous, Isabelle Morini-Bosque, les audiences d'hier soir, d'abord.
Du week-end,
d'accord.
Foot,
alors,
d'abord,
allons-y.
Foot d'accord, foot encore. Vendredi, vous étiez 12 900 000 à suivre le match Uruguay-France, pique à 16 100 000, soit 81% des 25-49 ans et même des femmes. Ce même jour, vous êtes encore 10 300 000 devant la rencontre Belgique-Brésil, pique à quasiment 13 millions, sur TF1 toujours. C'est le record pour un match hors bleu. Le lendemain samedi, le match Russie-Croatie retient 7 200 000 fanas sur la une, ce qui laisse 2 100 000 curieux simplement devant Fort Boyard, deuxième sur la 2. Quant à hier, jour sans foot, eh bien là, la comédie reprend ses droits. Celle de la une, elle l'adore, l'emporte avec 140 000 personnes simplement de plus que le commissaire Dupin de la 3.
Alors, signalons maintenant la fin de deux séries étrangères.
Oui, d'abord Major Crimes, fin d'une saison 4 bousillée par France 2 qui n'a pas pris en compte le côté feuilletonnant prononcé, rendant indispensable un résumé qui n'est jamais venu. Dommage. Autre fin, celle sur Canal Plus de feuilleton australien Picnic at Angling Rock, un pique-nique au cours duquel les jeunes filles d'un pensionnat disparaissent. Fin du suspense ce soir, on est en 1901, je rappelle. La française Lola Bessis nous en dit plus sur cette distribution essentiellement australienne, malgré Nathalie Dormer, la très méchante de Game of Thrones.
100% à part moi et Nathalie Dormer, anglaise. Et quand j'ai rencontré Nathalie Dormer à la première lecture, parce qu'on m'avait pas du tout dit qui serait dans le casting, j'ai demandé, on sait pas, c'est secret. Du coup, je suis arrivée là-bas et je me retrouve à une lecture le jour de mon arrivée. On parle de décalage horaire, de jet lag avec Nathalie Dormer qui venait d'arriver aussi de Londres et je ne savais pas du tout qui c'était. Au début, j'avais des a priori parce que je me disais, ah, elle est super douce, super gentille, super jeune, super jolie. Comment elle peut faire ce personnage ? Deux jours après, on était sur le tournage et elle était complètement métamorphosée et effrayante.
Méchante.
Exactement. Lola Bessis, fille de Daniela Lombroso, sera la vedette de C'est qui cette fille, un film franco-américain qui sort le 25 juillet.
Alors ça arrive tous les ans avec le Tour de France, c'est aussi le début des rediffusions d'été. Voilà.
Exactement, celle qui arrive début juillet comme les moustiques et les crèmes à bronzer. Mais attention, on parle là de rediffusions patrimoniales. Celle de comédies franchouillardes inoxydables, celle dont on se dit fin juin en se frottant les mains. Ah, qu'est-ce qu'ils vont encore nous fourguer cet été, Angélique, la 7e compagnie? Eh bien non, ce soir sur M6, vous aurez ceci.
Le gendarme, c'est l'ordre, l'ordre, c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous.
Mais enfin, papa, j'essaie d'être à la mode, d'être comme tout le monde, quoi.
Mais tu n'es pas comme tout le monde, tu es ma fille.
Oh, justement, si tu crois que c'est drôle.
Non, bah dis donc.
Vous avez manqué. Hein.
Oui. Et oui, Le gendarme de Saint-Tropez, film de Jean Giraud, sorti en 64, record d'audience de l'année avec 8 millions de spectateurs hilars devant les aventures du gendarme Cruchot, nommé à la brigade de Saint-Tropez. On rappelle l'anecdote, hein, à l'origine de la série. L'attaché de presse de Jean Giraud se fait voler sa caméra à Saint-Tropez. Il va porter plainte vers midi et le gendarme qui le reçoit est outré qu'on le dérange à l'heure du déjeuner, se déclarant d'ailleurs, par ailleurs, dans l'incapacité d'arrêter le voleur. L'histoire amuse le cinéaste, c'est le point de départ de cette comédie déjà diffusée 20 fois pile poil à la télé, contre 18 pour Le gendarme à New York, qui est proposé ensuite à 22h55. Je vous offre un extrait moins connu.
Encore.
Cruchot est en panne. Une religieuse le prend en stop, sauf que si elle se conduit bien, elle conduit en revanche très mal.
Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route.
Tant mieux.
Il est notre guide. Suivons-le, confions les yeux fermés.
Oui, mais on trouverait les parce que ça tourne. Ça tourne, voilà.
J'espère que vous savez parfois être indulgent aux fautes des autres.
Pas toujours, mais maintenant je me repens. Gabriel.
Voilà, celui qui voudrait mettre les voiles, moi, c'est vrai que ça fonctionne toujours, on a beau dire.
Tiens, autre chose qui fonctionne toujours, le retour de Don Camillo en face sur C8.
Oui, comédie sortie en 52, elle fait suite au Petit Monde de Don Camillo, succès mondial sorti en 51. Curieusement, C8 diffuse le deuxième avant le premier, relégué lui à 23h15. Vous me direz, c'est vrai, on connaît par cœur les bagarres entre le maire communiste Pépone et Don Camillo qui parle à Jésus, un rôle dont Fernandel parlait avec amour.
La première fois que Duvivier m'a envoyé le sujet, j'étais à Carry-le-Rouet, près de Marseille, en vacances, où je tournais. Le soir, je montais à Carry-le-Rouet, parce que vous savez, quand on est à Marseille, on dit toujours « je monte ». Et ce jour-là, avant dîner, j'ai vu la première scène où Don Camillo parlait à Jésus. Et j'ai dit à ma femme, si vraiment le sujet que je suis en train de lire continue comme il a commencé, je crois que je tiens le rôle de ma vie. J'ai tout lu, et j'ai reculé un film pour faire Don Camillo. Jésus, c'est un drôle de partenaire, vous savez. J'en ai eu dans ma vie, mais je dois dire que celui-là, je lève la barrette.
Oui, Jésus, drôle de partenaire. 21 diffusions télé, oui, pour chacun des deux dans Camille. Mais si on prend la décennie 2008-2018, le record du nombre de passages télé va au film Les 11 commandements de Vincent Desagna et Michael Youn. Et ça tombe bien parce que ça me permet de vous signaler le très beau portrait que W9 consacre ce soir à ce trublion, Michael Youn, qui est bien plus que le garçon incontrôlable qui réveillait les gens en hurlant dans le Morning Live. C'est un beau portrait, un portrait tout en petites touches qui est donc touchant.
Merci Isabelle Morini-Bosque. On va prendre la direction de la Bretagne dans quelques instants pour une exposition des œuvres de la collection Pinault. Ce sera avec Sophie Orange. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Alors nous partons pour la Bretagne, plus précisément pour Rennes. Nous allons découvrir avec vous de nouvelles œuvres de la collection de François Pinault. Debout, c'est le nom de cette exposition, événement au couvent des Jacobins et dans d'autres lieux de la ville d'ailleurs.
François Pinault, immense collectionneur, grand marchand d'art, capable d'acheter en 3 jours à New York pour 20 millions de tableaux. Collection qui compte aujourd'hui plus de 3000 œuvres. Certaines sont exposées à Venise, d'autres le seront dans 18 mois à la Bourse du Commerce à Paris. Là donc, rendez-vous à Rennes, en Bretagne. C'est ici que tout a commencé pour François Pinault, richissime patron du groupe de luxe Kering. C'est là qu'il a acheté son premier tableau en 1972, un Paul Sérusier qui représente une femme dans une cour de fer. Mais c'est là aujourd'hui, au couvent des Jacobins, magnifiquement restauré, que la collection Pinault présente une cinquantaine d'œuvres contemporaines dont plus de la moitié n'avait jamais été montrée. Sculptures monumentales, tableaux, vidéos qui entraînent le visiteur à résister debout. C'est bien le fil rouge de ce parcours choisi par Caroline Bourgeois, la commissaire et conseillère particulière de François Pinault.
On traverse de façon personnelle ou dans la grande histoire des moments absolument dingues, que ce soit des catastrophes écologiques, que ce soit les dictatures, que ce soit les guerres. Et finalement, on est toujours prêt à se relever, à se battre pour la survie parfois, pour le futur aussi. Beaucoup d'œuvres posent cette question-là, comment tenir debout malgré tout ce qui a pu se passer. L'enjeu de tout un chacun, c'est d'être fier de ce qu'il est et de se redresser.
Rester debout après la Shoah, par exemple, vous serez ainsi saisi par ces 9 vitrines spectaculaires des frères Chapman, des milliers de corps transformés, tels des petits soldats de plomb, des corps décharnés, entassés, torturés, des scènes horribles de charniers, de villes détruites. Et dans chaque vitrine, une représentation d'Hitler, le nom de cette œuvre, Merde de cauchemar, le tout observé par une petite fille assise dans une poussette, une installation plus vraie de nature, signée Duan Hanson. Hitler, on le retrouve dans la salle suivante, à genoux, habillé, de dos, il a la taille d'un enfant, mais déjà la moustache. Pour tout vous dire, il est
fameuse sculpture,
tellement réaliste exactement que j'ai eu peur de m'approcher. C'est saisissant. Im, lui donc, œuvre de Mauricio Catlan qui date de 2001. Autre événement qui aurait pu détruire un peuple, la guerre du Vietnam et notamment l'attaque du village au napalm par l'aviation vietnamienne le 8 juin 72. Les civils fuient brûlés. Un cliché a fait le tour du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Bien sûr,
une feuille nue, une fille nue qui court en criant. Eh bien, l'artiste algérien Adel Abdessemed qui a fui son pays en 94 en a fait une sculpture.
Elle est réalisée en ivoire, donc une matière qui rappelle les icônes. Donc c'est que des morceaux qui fabriquent la sculpture à l'image exacte de cette photo et à la taille de la petite fille de l'époque.
Et elle reste debout malgré tout.
Elle court pour rester debout. Elle est vraiment dans la survie et elle est toujours vivante. Donc elle a réussi à survivre et à rester debout malgré ce qu'elle traversait, malgré le napalm. La force de cette petite fille qui a survécu malgré tout ce qu'elle traversait.
C'est une exposition sombre, hein, Sophie, pas très optimiste.
Je vais dans votre sens, en regardant aussi ces 3 fantômes faits d'énormes ressorts avec leurs têtes effrayantes. Ils sont signés Thomas Schütte ou ces tableaux de Marlène Dumas, une femme allongée dans son cercueil comme le Christ. Mais tout de même, il y a de l'espoir, notamment avec la beauté de cette sculpture de Charles Rey qui nous redonne une petite flamme. Un jeune homme qui tient une grenouille dans la main, son regard est doux. Il regarde cette petite grenouille, va-t-il la lâcher? En tout cas, il ne la dissèque pas. Un entretemps, une hésitation qui nous invite à nous interroger, nous aussi, d'un blanc immaculé. Boy with Frog, jeune homme avec une grenouille, avait déjà été exposé, présenté à Venise pendant 4 ans.
Oui.
Et là, il est ici au centre du cloître. C'est absolument magnifique.
Et alors, il y a d'autres œuvres dans la ville de Rennes, c'est ça?
Oui, déjà, dans le patio du musée des arts décoratifs, on va retrouver une installation signée Tatiana Prouvé, les Dessouvenus, terme qui désigne ceux qui n'ont plus de mémoire, à l'opposé des artistes exposés au couvent qui, eux, travaillent sur l'histoire et le passé. Et à la Criée, centre d'art contemporain à Rennes, 13 aquarelles de Vincent Jiquel. C'est la première fois qu'il expose des aquarelles, lui qui peint toujours à l'huile et qui peut donc reprendre, toujours retravailler ces tableaux, ce qu'on appelle le repentir. Mais là, l'aquarelle, pas le droit à l'erreur, ou plutôt, l'erreur embellit l'œuvre, comme ce tableau décrit par le peintre Vincent Jiquel.
Je me trompe de couleur, je rate la main, ça devient un gant en laine, et puis ça finit par être un gros gant de boxe qui lui couvre la moitié du visage. Visage qui est finalement quelque chose d'assez récurrent dans toutes mes œuvres. Le visage, c'est la posture, le regard et l'expression du visage est hyper important. Et en fait, il reste juste un œil. Finalement, il n'a pas moins de visage que les autres. Il a juste une bouche, un nez et un œil en moins. Et le risque, c'était ça, c'était d'avoir des ratés, mais finalement, garder les ratés qui fonctionnent.
Et 13 hommes debout avec des visages pas très engageants qui nous regardent. Un travail sur la couleur, les corps sont nus, très sexués, ils s'agressent, ils se dominent. Certains paraissent misérables, mais tous sont debout.
Vitaliser les choses et les rendre éclatantes pour qu'elles nous éclatent à la figure, mais qu'elles nous donnent envie de nous réveiller et de nous dire « Ah ouais, moi aussi j'ai une vie à vivre ». Debout, forcément, c'est toute ma peinture depuis toujours.
Debout, c'est le nom de cette exposition, vous le voyez, elle nous invite à agir, à être dans l'action et ne pas sombrer dans le pessimisme. Des œuvres contemporaines qui dialoguent magnifiquement avec le couvent des Jacobins restaurés. Le prochain projet de François Pinault, c'est la Bourse du Commerce à Paris. On en reparlera évidemment, il devrait ouvrir dans un an et demi un nouvel écrin pour présenter sa magnifique collection.
Merci beaucoup Sophie Orange. On va marquer une pause dans un instant. La réponse au jeu pour gagner 3 livres, 3 polars sur proposition de Bernard Lehu. Et puis nous accueillerons Bruno Guillon. A tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Jérôme Chapuis.
Bernard Lehu.
Oui.
Nous avions donc la possibilité de gagner 3 livres avec vous.
Au tableau.
Alors, c'est très simple. Comme je n'ai plus mes feuilles sous les yeux, vous allez me rappeler le nom des polars, vous allez me rappeler les auteurs. Mais d'abord et avant tout, la question que vous nous posiez tout à l'heure. Quel est le nom du héros de Jean-François Parot?
Eh ben c'est bien sûr Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet dans le Paris du XVIIIe siècle. Et donc, vous gagnez, si vous avez donné la bonne réponse, le livre de Jean-François Parot, Le Prince de Cochinchine, chez Lattès, le Jean-Christophe Granger, La Terre des Morts, chez Albin Michel, et tout cela, je te le donnerai, de Dolores Redondo, au fleuve, voilà, les trois pour le prix d'un.
Eh bien voilà, merci beaucoup.
Gratuit.
Merci beaucoup, à condition d'appeler le 3210. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Je vous le disais, demain, c'est journée franco-belge sur RTL, mais en fait, avec cet été qui commence, ça va être un petit peu tous les jours la journée franco-belge, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir tout à l'heure à 11h Jean-Michel Zeka, d'Outre-Quiévrin. Mais avant cela, tous les jours, à 9h30, Caroline Diamant, Bruno Guillon, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
Bonjour.
Non, en fait, quand vous êtes parti sur le côté franco-belge, j'ai regardé Caroline.
Oui. Ah oui, vous êtes demandé.
Non. Belge.
Non, parce que je serais ravi d'avoir des origines belges, mais non.
Mais non. Malgré ouais, ce
qu'on... On en aura tous demain soir si la Belgique a gagné, quoi.
Oui, voilà. Bien sûr. Mais pas avant 22h30.
Voilà.
Quoi qu'il arrive. Rendez-vous demain
avec plaisir.